Le journal Ramambaï.
Insécurité à Niamilima au Nord Kivu, plusieurs cas de meurtre et de pillage sont enregistrés depuis les opérations conjointes FRDC MONUC. Ces exactions sont attribuées à des hommes armés non identifiés. Tension à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. À la base, un étudiant accusé de collaborer avec le comité de gestion de l'Institut a été blessé à la hache par d'autres étudiants. La presse congolaise doit éviter de jouer un rôle nocif à la cohésion nationale. Exhortation du président du Conseil supérieur burkinabé, chargé de la communication, Luc Adolphe Tchaou, fait allusion à la couverture médiatique des prochaines élections. Bonjour, pas de sécurité pour la population de Niamilima, localité du Nord Kivu dans le territoire de Rutshuru. Ce depuis les opérations militaires conjointes MONUC-FRDC déclenchées le 26 avril dernier contre les FDLR. Les cas de pillage et de meurtre sont quasi quotidiens. Ces exactions sont toujours attribuées à des hommes armés difficilement identifiables à cause de la présence sur le terrain de plusieurs groupes armés. La population se demande s'il faut s'exiler ou rester dans ce secteur où les routes sont devenues des mouroirs. De Goma, Rosalie Zawadi.
Une fois de plus ce week-end, des incidents sanglants dans les secteurs de Niamilima. Les chauffeurs d'un véhicule ainsi qu'une femme dans la cabine ont été tués. Trois passagers blessés sont arrivés à l'hôpital de référence de Niamilima. Cet événement tragique n'est pas le seul à avoir été enregistré ce week-end dans les secteurs de Niamilima. L'administrateur assistant Michel Magenda.
Vous voyez, nous avons des bandes armées ici à côté de Niamilima, au parc. Nous sommes dans l'insécurité. Nous avons proposé à notre armée de mettre une ceinture sur le plateau de Niabitale, mais jusque-là, rien n'est fait. Toute la cité de Niamilima et les alentours sont dans l'insécurité. Les vols partout à Buramba, toute la nuit, nous enregistrons beaucoup de vols.
L'identité des assaillants reste toujours un mystère, car plusieurs groupes armés opèrent dans les secteurs de Niamilima, sans oublier des éléments FRDC de la 2e brigade intégrée qui occupent plusieurs positions. Mais au niveau de la haute hiérarchie militaire de la province, on pense que seuls les FDLR rwandais sont à la base de l'insécurité dans les secteurs de Niamilima. Il y a quelques jours, les commandants de la 2e brigade intégrée basée à Rutshuru a reconnu lors d'une réunion avec la MONUC que les FDLR avait récupéré presque toutes leurs anciennes positions après les opérations conjointes FRDC-MONUC qui les y avaient délogées. Et la population de Niamilima de se demander si devant une telle situation, il faut rester dans cette cité ou se réfugier ailleurs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Province orientale, les tracasseries et les abus de pouvoir d'hommes armés dans les mines de diamants ont repris. Selon plusieurs creuseurs de diamants de Gbogbo, à 128 km au nord de Kisangani, des officiers du service de renseignement de l'armée les tracassent. Cette insécurité décourage beaucoup de diamantaires qui exploitent la zone minière de Banalia. Edo Ponea, conseiller au gouvernorat de province, revient de Banalia. Il est au micro d'Aliana Alipanagama.
Il y a des personnes non éligibles dans l'exploitation des diamants, les militaires et les policiers, aujourd'hui qui terrorisent la population, qui terrorisent les exploitants, et ce qui n'est pas bon. Pire, c'est que ces gens-là, ils arrivent dans ces zones, dans ces foyers miniers, sans aucun document officiel les autorisant d'arriver. Disons qu'il y a des trafics d'influence. Des hauts officiers sont entrés d'atteindre les milliers d'exploitations. Nous prenons l'exemple le tout dernier, c'est le foyer minier Bobolo, qui fait son temps aujourd'hui, où nous retrouvons les militaires de la police, de la prévôté militaire, nous retrouvons des officiers de renseignements militaires qui théorisent effectivement et malheureusement cette situation-là qui crée une certaine insécurité et ne permet pas une condition de sérénité aux exploitants miniers et aux hommes d'affaires d'œuvrer calmement.
La semaine qui vient de s'achever, a été particulièrement marquée à l'Équateur par de violentes manifestations des démobilisés de la CONADER. À Bumba, à Guémena et à Guadolité, ces ex-combattants se sont distingués par des casses et pillages. Ils ont aussi pris à partie la MONU qui n'est pas impliquée dans leur gestion. Pourquoi tous ces débordements? La question a été posée au coordonnateur de la CONADER Équateur, Jean-Claude Colli, et joué au téléphone par Paul-Richard Malengela.
Disons qu'à Guémena et à Guadolité, ils sont allés effectivement revendiquer leurs primes. Mais à Bumba, c'était à cause d'un habitant que la justice avait déguerpi pour occupation illégale d'une maison de l'État. Ce monsieur a recouru à ses frères démobilisés. À leur tour, ils ont associé leurs camarades. Ensemble, ils sont allés causer des dégâts au tribunal de paix. Cela n'avait aucun rapport avec la paix. À Guadolité, ils n'avaient pas compris que la CONADER est une agence d'exécution et que la paix des démobilisés s'effectue selon les modes initiés par celle-paix. Il fallait attendre que l'argent soit payé conjointement avec l'ancien agent de la CONADER avant de céder désormais la place à celui de CELPAY. Mais les démobilisés ont manqué de patience et sont allés assiéger le bureau de la MONU, qui n'est d'ailleurs jamais impliqué dans leur pays. À Guémena, ils sont venus, on les a fait comprendre, les fonds ont été débloqués et finalement l'agent de CELPAY a procédé au paiement.
La grève des médecins à Kinshasa inquiète. Depuis hier, seulement deux formations médicales étatiques ont reçu les urgences pour l'ensemble de la capitale. Il s'agit de l'hôpital de référence de Njili et le centre mère et enfant de Barumbu. Par rapport à cette nouvelle dimension de la grève, notre reporter Jacques Matande s'est rendu à l'hôpital de référence de Njili, l'un des deux retenus hier lundi pour les urgences. Il a pu remarquer une affluence des malades. Jacques Matande.
Les salles d'urgence enfants et adultes de l'hôpital de Njili ont reçu cet avant-midi plus de malades que d'habitude. Selon des infirmiers rencontrés dans la salle d'urgence adulte, d'habitude, tout l'avant-midi, ils reçoivent en moyenne deux ou trois cas d'urgence, soit ne pas en recevoir du tout. Aujourd'hui, jusque vers 11h, ils avaient déjà admis près d'une dizaine de cas. D'autres malades continuent à se diriger à l'hôpital pendant que d'autres attendaient dans le couloir le temps d'être reçus par les médecins. D'après ces infirmiers, à cette allure, la salle risquait de ne pas contenir de nouveaux cas d'ici la fin de la journée. Pendant ce temps, à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo, les salles d'urgence sont restées désertes. On pouvait voir des lits de malades vides, pas de médecins dans des cabinets d'urgence pédiatriques, gynécologiques et des accidentés. Aucun cas d'urgence n'a été enregistré cet avant-midi. Selon les calendriers des médecins grévistes mis sur pied, l'hôpital général de Kinshasa ne devait pas fonctionner. Les infirmiers de l'hôpital général nous ont déclaré qu'ils observaient un service minimum pour les malades déjà admis à l'hôpital. Les médecins et infirmiers rencontrés sur les lieux nous ont déclaré que leur mouvement de grève ne consiste pas à pénaliser les malades, plutôt à interpeller le gouvernement à respecter ses engagements envers le corps médical.
Selon le calendrier arrêté par le SINAMED, le syndicat national des médecins, pour la journée de ce mardi, les urgences reviendront à la clinique Galiema et au centre hospitalier de Matete. Les hôpitaux publics de Matadi dans le Bas-Congo, frappés aussi par la grève des médecins depuis hier matin, à l'instar de leurs collègues de Kinshasa, les médecins de Matadi revendiquent 9 mois de primes non payées et la régularisation des dossiers de nouveaux médecins. Ils réclament aussi un statut spécial comme celui des magistrats. Les trois hôpitaux publics de Matadi organisent un service minimum pour les urgences. Direction province du Sud Kivu, tension la nuit de dimanche à lundi à Bukavu. Un étudiant de l'Institut supérieur pédagogique a été agressé dans sa chambre par ses camarades qui l'accusent de collaborer avec le comité de gestion de cet institut. Selon plusieurs sources, l'étudiant accusé aurait reçu un coup de hache au front et serait grièvement blessé. De Bukavu, Claude Yanza.
La scène s'est passée aux environs de 23 heures. Selon un étudiant qui partage la chambre de la victime, un groupe d'étudiants recherchait trois étudiants, dont la victime, les accusant de collaborer avec le comité de gestion. On écoute cet étudiant qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
L'un d'eux a commencé à le fouetter le bâton. Un autre lui a bâti un couteau au milieu de la tête. En voyant le sang couler très fortement, comme nous étions à 5, on a retiré l'injanja juste dans la chambre. Directement, on a vu lancer si une machette aussi dans la porte.
En effet, le climat est très tendu sur ce campus depuis une grève qui sévit depuis un mois. Les étudiants étant partagés en deux groupes, ceux qui veulent une reprise des cours et une minorité opposée à cette reprise, dont font partie les assaillants. Du côté du comité de gestion, on pense que la solution au problème d'exclusion des trois étudiants à l'origine des violences actuelles dépasse leurs compétences et en appelle aux autorités. De Bukavu, Claude Kianza, Radio Okapi.
Au Maniema, des nouveaux avocats stagiaires ont prêté serment samedi à Kindu. Malgré cette prestation de serment, le barreau de Kindu n'est toujours pas constitué officiellement. Ceci malgré le nombre croissant d'avocats depuis une année. Et ces derniers préfèrent travailler en dehors de la province. Rigobert Yuma.
Je jure de respecter la constitution, d'obéir à la loi.
C'est mademoiselle Claudine Ntsongo Mbalami, 27 ans, l'une de deux femmes parmi les 15 stagiaires qui ont prêté serment samedi. Ils sont venus de Bukavu, Goma, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Cette prestation porte à 50 le nombre d'avocats ayant prêté serment à Kindu. Mais parmi eux, 12 seulement exercent en permanence à Kindu et deux d'entre eux sont inscrits au barreau, nous a confirmé le premier président de la cour d'appel de Kindu, Roger Munanga. Malgré le nombre de stagiaires qui prêtent serment, temps, le problème des avocats est loin d'être résolu dans le chef-lieu du Maniema, car tous ces stagiaires sont obligés d'aller travailler aux côtés de leurs maîtres de stage en dehors de Kindu, explique le premier président. Et lui d'ajouter qu'il est plus facile pour tous ces avocats stagiaires de prêter serment à Kindu parce que c'est un jeune barreau qui est en train de se constituer. Monsieur Munanga annonce que le 3 juin prochain, la Cour d'appel va transmettre au barreau ses prérogatives pour qu'il puisse fonctionner de façon autonome et légalement. De Kindu, Rigobert Rimandouane Walumba, Radio Cap.
Nous le disions en titre, la presse doit éviter de jouer un rôle nocif dans la cohésion nationale, précisément en matière de la couverture médiatique du processus électoral. Exhortation faite à la presse congolaise par le président du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. C'était lors d'un point de presse tenu hier lundi à Kinshasa. Luc Adolphe Tchao a été invité par la Haute Autorité des médias pour partager l'expérience de la presse burkinabé dans la couverture des élections. Après un séjour d'une semaine en RDC, le président du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso salue la floraison des médias en RDC, mais il relève aussi des dérives. Luc Adolphe Tchao est au micro de Mireille Boukassa.
La première, c'est que je me félicite de ce qu'au Congo, il y a une très grande diversité de titres de médias. Ce nombre important, je pense, répond aux soucis du pluralisme et de l'information. J'ai également constaté un deuxième point, que s'il y avait effectivement de très bons reportages que j'ai suivis à la télévision, j'ai écouté la radio, j'ai lu des journaux, il y a de bonnes analyses. Je reste également aussi frappé par certaines dérives qui ne font pas honneur à la profession. Autant les journalistes doivent être eux-mêmes exigeants avec eux-mêmes pour faire un travail de qualité, afin que leur travail ne débouche sur des crises plus graves qu'on a connues ailleurs. Je pense que je viens du Burkina, je ne suis pas loin de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire le rôle nocif que la presse a joué dans la cohésion nationale et dans le déclenchement de la crise de ce pays.
C'était là Luc Adolphe Tchao, président du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. 56 millions de francs congolais renflouent le trésor public grâce à la vente publique des marchandises abandonnées au port international de Matadi dans le Bas-Congo. Vente publique organisée par l'Office des douanes et accises. L'opération s'est déroulée le week-end dernier. Plus de 200 conteneurs, véhicules et engins motorisés ont été dédouanés après la publication par voie de presse de la liste des marchandises abandonnées. Dani Kinda.
L'opération de vente s'est déroulée en deux temps, le samedi pour les véhicules et le dimanche pour les conteneurs. La visite de 9 conteneurs exposés au parking de l'Office des douanes et accises situé dans l'enceinte même du port a permis aux acheteurs de se faire une idée exacte de marchandises mises en vente. Pendant une heure, voitures et autres articles tels que matériel informatique et électrique, machines pour casino ont été vendues comme des petits pains. Notre but n'est pas de vendre à tout prix les marchandises abandonnées, mais plutôt permettre au trésor public de rentrer dans ses droits. La vente publique permet également de désengorger les ports, a affirmé Mme Pierrette Mbombo, directeur juridique de l'OFIDA. Pour M. Adelard Kisula, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi, la vente était régulière car les marchandises vendues étaient abandonnées par leurs propriétaires. Signalons que la même opération se poursuivra samedi et dimanche prochain au port de Boma. Et Matadi, Danikin Danzika, Radio Okapi.
L'actualité internationale: des négociations historiques entre le nouveau gouvernement du Burundi et les Forces nationales de libération, FNL, dernière rébellion en activité, ont commencé lundi en Tanzanie pour mettre fin à près de 13 ans de guerre civile. Il s'agit des premiers pourparlers directs entre les FNL et le gouvernement issu des élections générales de 2005. La délégation des FNL est conduite par le chef de la rébellion Agathon Rwasa, tandis que le ministre burundais de l'Intérieur, le général Évariste Ndayishimiye, dirige la délégation gouvernementale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.